associations qui se manifestent tous les jours. Alors, avec un supplément de voyageurs, oui. Alors, et des arbres coupés ou combien?
On a répondu là.
Le RER A, oui. La station de RER A Saint-Germain-en-Laye, c'est 4 300 000 voyageurs par an. Pour voir ce que ça représente, oui. C'est le nombre de passagers d'une station de métro comme Grand Boulevard. C'est énorme. C'est très important. Donc c'est certain qu'on va rajouter du flux sur une ligne qui est déjà saturée, mais quasiment. Le matin, vous prenez, on a la chance, nous, quasiment, d'être en terminus, parce que arriver au Vésinet-Lepec ou même à Chatou, c'est fini, c'est plein. Entre 7h30, 8h et 9h du matin, vous n'avez aucune possibilité. Que faire au niveau de la ville? Que faire au niveau de la ville? Bon, malheureusement, c'est de travailler en plus étroite relation avec la région, voire peut-être avec le département. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Je pense que c'est une œuvre à mener, quelle que soit la majorité, et de manière la plus intense possible, pour pouvoir obtenir systématiquement les modifications, les améliorations dont on a besoin. Ça, c'est évident. Ça, c'est... Oui.
Moi, j'aimerais vous dire en ce qui concerne l'urbanisme.
Oui.
Vous habitez Saint-Germain, oui. Et vous êtes certainement au courant de cette commission, enfin, laboratoire d'idées, parce que c'est le nom, Saint-Germain.
Ça, c'est moi,
qui a été...
Oui. Non, parce qu'il y a un autre laboratoire d'idées, oui, à Saint-Germain, oui, c'est pas moi du tout.
Saint-Germain, qui en fait est en train de réfléchir depuis janvier 2019, oui. Sur l'avenir des zones pavillonnaires.
Oui.
Parce qu'il est considéré que cette zone pavillonnaire est beaucoup trop importante, elle occupe une superficie beaucoup trop grande par rapport au nombre de personnes qui y vivent, et que par conséquent, il faut modifier, et je veux dire même raser des pavillons comme on a commencé à Saint-Germain, oui. Vous le savez certainement fort bien, oui,
regardez
le Vidal par exemple.
Alors le Saint-Germain, oui. C'est nous, oui. C'est moi, c'est juste, oui. Co-fondateur, oui. Du Saint-Germain,
oui.
La réunion sur l'espace résidentiel, sur l'avenir des quartiers résidentiels, elle s'est déroulée ici, il y a quelques mois, et on a dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a rappelé que l'essentiel de notre espace territorial était occupé par des zones pavillonnaires, et que face à la pression immobilière, il fallait que l'on trouve des solutions pour répondre à cette pression. Mais aussi, une autre contrainte, c'est que les habitants qui habitent ces quartiers résidentiels veulent pouvoir effectivement accéder plus facilement à un certain nombre de services de proximité, veulent pouvoir avoir davantage de mobilité. Non, mais pas toujours.
Parce que quand on choisit en fait de vivre en pavillon, c'est pour justement peut-être pouvoir respirer un petit peu. Et je
vous avez bien raison.
J'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, vous en parlez dans votre programme, qu'il, oui. Va falloir cibler certaines zones individuelles pour pouvoir densifier. Et moi, je voudrais dire que je suis absolument choquée que l'on puisse densifier, comme on le fait à Saint-Germain, dans toutes les rues, pratiquement, vous avez des immeubles.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
Rue Vidal, rue Carreau.
Mais alors, le Saint-Germain, c'est pas du tout la campagne municipale. Le Saint-Germain, c'était justement de pouvoir organiser des soirées et des débats.
Que les gens le sachent.
L'avenir des quartiers pavillonnaires, cette question-là, on a fait venir l'urbaniste dont je vous avais parlé pour qu'elle nous explique un petit peu quels étaient les enjeux et les contraintes. Et il ne s'agissait pas du tout d'une prise de position, mais surtout de pouvoir susciter les interrogations, de pouvoir confronter les problématiques auxquelles nous étions confrontés avec ce qui pouvait se passer ailleurs. Et aujourd'hui, le fruit de cette réflexion est bien au-delà, c'est au contraire de bien affirmer le fait que nos quartiers pavillonnaires, c'est un facteur clé d'attractivité.
On ne peut pas parler de climat en détruisant toute la végétation qui est indispensable à notre vie. C'est ça que je
ne comprends
pas. Ce n'est que contradiction.
Madame parlait tout à l'heure du train-train et des arbres.
Oui,
ça, peut-être par notre projet sur reverdir la ville.
Tout à fait. Alors, le tram-train a été un choc pour beaucoup d'associations. Des associations qui travaillent depuis de nombreuses années, notamment au classement de notre forêt. Cette forêt, elle a été classée le 7 novembre dernier dans un statut particulier qui s'appelle la forêt protection. Donc désormais, sur un peu près de 350 hectares, on ne peut plus toucher à la forêt. Donc ça a été un avantage crucial. Le souci, c'est que ce classement, évidemment, il intervient un petit peu tard. Notamment, il intervient après toutes les coupes qui ont été faites pour le tram-train. Ce que je déplore avec le tram-train, c'est que on nous promet que ce qui est planté aujourd'hui est l'équivalent de ce qui a été coupé. C'est faux. C'est faux. Les essences ne sont pas les mêmes et vous ne pouvez pas comparer un arbre centenaire avec une équipe. Bon, ça a été planté. Personnellement, je vais être très honnête. Le tram-train, c'est une volonté de la région et de l'État. Ça a été pris par des décisionnaires il y a déjà une dizaine d'années parce que c'est des projets qui sont très longs. Je ne vais certainement pas faire le procès de la majorité actuelle parce que, véritablement, je vais être objectif, c'est pas de leur fait. C'est pas de notre fait et tout le monde regrette que cette forêt ait été, pardonnez-moi le terme, mais saignée de cette manière pour ce tram-train qui nous promet beaucoup et pour lequel on peut encore entretenir un certain nombre de doutes. Maintenant, cette forêt, c'est toute 80% de notre territoire, c'est du ressort de l'ONF. Que fait-on sur les 20% restants, notamment dans la ville, avec l'objectif de verdir? On doit contribuer au décarbonage, on doit embellir nos rues et on doit aussi faire preuve à nouveau de bon sens. Sans doute, vous aurez remarqué que régulièrement, on fait des travaux de voirie. Ces travaux de voirie, soit pour passer du câble, soit aussi, surtout, pour pouvoir rénover notre réseau d'assainissement. Notre réseau d'assainissement, aujourd'hui, au regard du rythme auquel on le rénove, il faut qu'il tienne un siècle. Un siècle. Le rythme, comparé au kilomètre, il faut que ça tienne un siècle. Évidemment, ce n'est pas la situation la plus confortable. À vrai dire, je pense que dans les années à venir, on va devoir accélérer la rénovation de cet assainissement. On va devoir l'accélérer, puisqu'en plus, aujourd'hui, ça reste une compétence de la commune, mais demain, ça sera la compétence eau-assainissement, va vraisemblablement se réfléchir et se décider au niveau de l'intercommunalité. L'important pour nous, c'est de pouvoir saisir ces opportunités pour embellir notre ville. Comment faire ? Aujourd'hui, pour changer un tuyau, on casse du bitume, on change le tuyau, on met du bitume. Demain, ce que l'on souhaite faire, c'est que on a pour objectif de planter 600 arbres en 6 ans dans la ville. C'est pas pour nous. C'est pour les générations d'après. Très clairement.
Mais ça. Et la survie, parce que si on densifie comme ça, il n'y aura plus de respirer.
Je suis tout à fait d'accord. On est dans une ville qui est très minérale. Certains d'entre vous, peut-être, grandissent ici, d'autres ailleurs. Je déplore que parfois, on a trop d'avenues à Fourqueux ou à Saint-Germain où vous n'avez pas un seul arbre.
Et quand il y en a, on les rase pour faire des constructions. On construit sur des toutes petites parcelles.
Attention aux racines, sur les canalisations.
Sur les racines, c'est systématiquement ce qui nous opposait, mais ben c'est dangereux. Je ne suis pas spécialiste.
Quand on voit certains trottoirs qui gondolent avec toutes les racines, ça arrive, je suis derrière une poussette.
Donc, je vois exactement le type de problématique que vous posez. On a parmi nos voisins des personnes en situation de handicap. Donc, il leur faut pouvoir circuler facilement. Donc, c'est certain, il faut être attentif aux conséquences. Il faut être attentif aux conséquences. Aujourd'hui, on a plein d'expériences dans d'autres villes, notamment au Canada, notamment en Europe du Nord, où on peut planter sans que ça ne dégrade ou que ça ne porte atteinte au réseau. Alors, évidemment, c'est une question de spécialiste, parce que en fonction de la configuration de la voirie, en fonction de l'essence, en fonction aussi de l'ombre que ça peut porter, on peut cuver pour protéger les canalisations. Et donc aujourd'hui, on sait régler ce problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'objectif de planter ces 600 arbres en 6 ans pour les générations à venir, pour embellir la ville, pour répondre aux problématiques que vous soulevez. Mais justement, il y a deux politiques. Soit vous êtes un écolo pur et dur, alors pardonnez-moi pour les écolos pur et dur, mais politiquement parlant, j'entends, où vous avez décidé coûte que coûte de Planter 600 arbres en 6 ans, c'est-à-dire que vous dépensez de l'argent, vous cassez et vous plantez parce que vous l'avez promis. Certainement pas. Je suis un peu radin. Je suis même assez beaucoup radin. Ce qui veut dire que on doit le faire en opportunité. Je vous ai dit, j'ai commencé mon propos en vous disant de toute manière, on va devoir accélérer ou continuer en tout cas la rénovation de nos voiries. Chaque rénovation doit être l'occasion de réfléchir à la manière dont on pourra réaménager, planter dans ces voiries. Et ça me permet de joindre aussi notre proposition sur la manière dont on veut pratiquer pour ce type de travaux. Aujourd'hui, quand on fait des travaux dans une rue, déjà, on ne prévient pas forcément les gens. On fait les travaux, tout arrive, on ne sait pas trop combien, de temps ça va durer, comment ça va s'organiser. Et puis, bah, comme les riverains n'ont pas été contents, on va les convier à une réunion et on va leur demander si tout s'est bien passé, s'ils sont contents. Bon, c'est bien, mais je pense qu'on n'a fait que la moitié du chemin. On n'a pas fait la moitié en amont, qui consiste à dire qu'on a besoin de faire des travaux. On aura besoin de faire des travaux, on aura besoin de planter, on aura besoin de réfléchir, de savoir si, quand on plante, eh bien, on crée des places de stationnement. Si on plante, on supprime des places de stationnement. Si on plante et qu'on refait une voirie, est-ce que dans certains quartiers, ce ne serait pas l'occasion notamment d'en mettre une en sens unique pour reconfigurer le sens de la circulation, pour dégager de la voirie et des trottoirs, parce que vous avez certaines rues qui sont à la fois étroites, avec des trottoirs qui sont tout petits, complètement rongés. Donc tout ça, il va falloir qu'on fasse avec une méthode très simple. Travaux est égal. Concertation des riverains en amont pour la présentation des alternatives qui sont possibles. Il s'agit d'associer les riverains aux travaux en amont, que chacun puisse avoir bien conscience de la durée, des nuisances, parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Avec des travaux, de ne pas savoir combien de temps ça va durer, quelles seront les nuisances, et de devoir subir. C'est ce qu'on appelle prévenir plutôt que subir. On a plein d'exemples. Et je pense qu'on en est à peu près, j'espère, tous d'accord, de dire qu'on a besoin de faire des travaux avec les travaux, que ce soit devant chez soi, dans sa rue ou dans son domicile, ça impose des nuisances. Mais ce qu'il y a de pire, comme le voisin qui fait du bruit et qui ne vous a pas prévenu, c'est insupportable. Mais c'est le voisin qui est courtois, qui vient vous voir la veille ou une semaine avant et qui vous dit « Bon ben voilà, j'ai prévu une petite fête, je vais faire du bruit. » On peut s'organiser, mais quoi qu'il arrive, j'arrête à 23h ou à minuit et qui s'y engage et qui le respecte. Ça, c'est beaucoup plus supportable. Et ben pour les travaux, on fera la même chose. On conviera les riverains systématiquement avant pour pouvoir leur expliquer ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire lorsqu'on a le choix, parce que vous avez certaines voiries qui dépendent du département et d'autres qui dépendent de la commune. Comme ça, chacun connaîtra en connaissance de cause ce qui malheureusement est indispensable et incontournable lorsqu'on fait des travaux, c'est les nuisances. C'est notre méthode. C'est notre méthode et c'est celle qu'on appliquera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait, c'est comme ça, on vous informe, et puis basta. Sans vous informer. Je ne vais pas vous dire que les travaux ne feront pas de bruit. Je vous dis qu'on vous préviendra, déjà, sur la manière, sur le calendrier, pour que vous puissiez, chacun, lorsque ce sera le cas, savoir combien de temps ça va durer. Parce que les nuisances, elles sont plus supportables.
Alexandre, oui. Peut-être tu pourrais demander si d'autres personnes, je crois que monsieur avait des questions à te poser, ou d'autres personnes qui sont... Outre l'urbanisme, est-ce qu'il y aurait d'autres sujets, qui vous interpellent ou vous aimeriez avoir...
Oui, j'ai une question. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de l'urbanisme, je pense que c'est effectivement très, très important. Mais j'aimerais effectivement que dans votre programme, vous avez certainement un volet également budgétaire, fiscal et financier. Oui. J'aurais aimé effectivement savoir si vous pouvez développer cet aspect-là de votre programme.
D'accord. D'abord, en introduction, très rapidement... Notre ville est dans une situation qui est plutôt saine. D'accord ? Elle est à relativiser. Elle est à relativiser parce que certes, nous avons peu d'endettement. Mais aujourd'hui, notre budget, grosso modo, on ne va pas rentrer dans le détail des millions, même si c'est important, c'est 60 millions d'euros de fonctionnement et 20 millions d'investissement. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de dépenses que l'on fait comptant. parce qu'on a un budget d'investissement relativement important. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que ça sera apprécié, notamment parce que nous avons un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels nous allons devoir dépenser de l'argent. Est-ce que nous allons souscrire des emprunts et des financements? Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. On nous dira, je sais que je vais critiquer. Ah, vous voulez endetter la ville? Si c'est pour des investissements qui permettent de générer des revenus, je pense que, comme un bon père de famille, vous faites du locatif, vous vous endettez parce que vous savez que vous allez avoir des revenus derrière. Oui, je pense que, compte tenu de la situation, avec des taux très bas, on peut le faire. Et on ne me prendra pas au dépourvu, car aujourd'hui, sur le quartier de l'hôpital, je fais une petite parenthèse, dans le dernier conseil municipal, la ville s'est endettée pour pouvoir racheter des terrains. Donc on ne me dise pas que ce n'est pas possible. On va s'endetter pour le quartier de l'hôpital comme on s'est endetté pour le quartier de la Lisière-Perret, comme on s'est endetté pour la rénovation des retours, et comme on s'endettera sans doute à l'avenir. Sur le volet financier, je voudrais simplement attirer votre attention effectivement sur le fait que oui, on n'a pas connu d'hausse d'impôts ces dernières années. Très bien. Sauf qu'on a une partie de budget d'investissement qui est très importante. Donc évidemment, s'il y a des investissements qui sont sur 10, 15, 20 ans, que vous payez comptant, ce n'est pas la même chose que si vous les financez à plus long terme. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on est sous perfusion. On est sous perfusion, notamment du Conseil Général. La part du Conseil Général dans les aides, et notamment notre budget de fonctionnement, est stable. Ce qui est une première observation à retenir. Alors que toutes les autres villes, en moyenne du département, voient la contribution départementale diminuée, la nôtre est stable. Très bien. On va plus loin sur les conclusions. Pourquoi? Parce que on est dans un schéma départemental qu'on construit et que l'objectif au niveau du département, eh bien, lorsque vous construisez, bah, vous en prenez une part, et quand vous en prenez une part, eh bien, on vous aide dans votre budget.
C'est grâce à vous que ça.
Deuxième chose, la part départementale, elle est deux fois supérieure aux autres communes. Troisième chose, on n'a pas augmenté les impôts l'année dernière, mais on avait la participation du département pour la fusion, un peu plus de 5 millions d'euros. Une paille, budget de fonctionnement 60 millions, subvention 5 millions. Ça fait quand même... Ça fait beaucoup. On a le gel de la dotation globale de fonctionnement. Ah, ça, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est le pacte qui est conclu pour toutes les communes. Donc aujourd'hui, de là à vous dire on a fusionné pour des raisons budgétaires, a priori, oui, c'est comme ça. Participe.
Il n'y a plus de carencement.
Comment ?
Il n'y a plus de carencement pour les logements sociaux, les 25% de logements. Il n'y a plus de carencement.
C'est temporaire.
Oui, ça sera sur 3 ans, je sais pas.
C'est temporaire. Donc, oui. aujourd'hui, on en est là. Donc, c'est vrai que le sujet de la fiscalité est important. Je crois qu'on a des sources d'économies à faire, notamment sur la réorganisation des services. On a des sources d'économies à faire sur cette part d'investissement, en arbitrant de manière plus judicieuse et en opportunité entre ce qui doit être financé au comptant et ce qui peut être financé sur plus long terme, car on aura des dépenses à faire. Ça, c'est clair. Une dépense importante qui nous tient à cœur, c'est la santé, et de faire en sorte que notre territoire ne devienne pas un désert médical. Par rapport à d'autres départements de province, on est mieux loti. Par rapport à Paris, on est moitié moins bien loti. Et plus vous vous éloignez de l'agglomération parisienne ou des autres agglomérations de région, plus la situation est dramatique. Pourquoi la santé? D'abord parce que c'est une attente importante de la population. Deuxième chose, comme je vous disais, on a une population qui tourne beaucoup à Saint-Germain. Troisième chose, c'est qu'à Fourqueux, on a une population qui va, dans les années à venir, comme à Saint-Germain et à Fourqueux, devoir aussi mettre en avant son attractivité en termes d'offres médicales. Et on est confronté bah, tout simplement au vieillissement de nos professionnels de santé. On est, aux yeux de l'Agence régionale de santé, mieux doté, surdoté que d'autres régions. Pourquoi ? Parce qu'on a certes, effectivement, des médecins généralistes, des spécialistes. On les a, ils s'installent à Saint-Germain. Je prendrai le cas des chirurgiens dentistes. On a 42 chirurgiens dentistes entre Saint-Germain et Fourqueux. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi plusieurs milliers d'enfants intramuros et extramuros. Des parents qui scolarisent leurs enfants sur notre territoire communal, eh bien, ils font coup double. C'est-à-dire, on les scolarise et on est suivi par un médecin sur le territoire pour éviter de courir. C'est un petit peu ce même matériel. Pour autant, on a une inquiétude, notamment sur les médecins généralistes. Puisqu'aujourd'hui, nos médecins généralistes, il y a deux contraintes. La première, c'est qu'ils approchent
tous de la
retraite. Voilà. Et deuxième chose, ils sont la plupart installés dans des locaux qui ne sont pas transférables. Parce qu'en étage, parce qu'appartement, parce que pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite. On a commencé à trouver des solutions. Les maisons médicales, c'est-à-dire accueillir de nouveaux praticiens. Mais pas simplement de nouveaux praticiens, aussi tous ceux qui ont besoin de lever le pied. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder, vous allez, je ne vais pas faire de publicité, vous voulez prendre un rendez-vous sur Doctolib, ou vous allez sur les réseaux sociaux, tu sais que tu viens de Saint-Germain, ou tu sais que tu viens de Fourqueux, et bien vous avez toujours les nouveaux qui vous disent bah, « Est-ce que vous ne connaissez pas un médecin ? Est-ce que vous connaissez ça ?» Et notamment les généralistes. Et c'est très important, les généralistes, parce qu'aujourd'hui, dans notre système de santé, c'est souvent le point d'entrée pour aller voir peut-être un spécialiste ou d'être dans un parcours de soins. Donc, il va falloir qu'on mette le paquet sur les généralistes. Comment faire ? On discute avec les professionnels libéraux de santé. Ils nous disent aujourd'hui, on est quand même dans une affaire assez difficile, c'est-à-dire qu'on nous demande plus de soigner les gens, on nous demande d'être des investisseurs immobiliers. Il faut acheter, ça coûte cher. Et puis il faut être aux normes. On n'a pas toujours l'assurance de pouvoir être aux normes. Que ce soit sur l'accès aux personnes à mobilité réduite ou que ce soit pour le nombre de stationnements. On m'a témoigné du cas d'un ophtalmologue qui vous aidait à s'installer, qui avait trouvé un local en rez-de-chaussée, sauf que, eh bien, il n'était pas assuré d'avoir les autorisations pour pouvoir organiser l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et puis, évidemment, on lui imposait également un nombre de stationnements à proximité. Ça devient très compliqué. Tous nous disent la même chose. Notre métier, c'est de soigner. C'est pas d'être investisseur immobilier. Alors, on l'a vu au Bel Air. Emmanuel Lamy, lorsque il a reconfiguré le Bel Air, il a créé une maison de santé, c'est-à-dire concrètement, ce sont des locaux dédiés à des professionnels de santé. À Fourqueux, la même chose a été faite. Sur le quartier de l'hôpital, on nous promet également la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où ça presse beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et que je ne crois pas qu'on puisse attendre que le quartier de l'hôpital sorte de terre pour pouvoir accueillir de nouveaux médecins pour satisfaire. Parce que déjà, d'une part, il va falloir qu'on attende 5 ans minimum. Alors vous savez, les travaux, comme on dit, j'ai un père qui est entrepreneur de travaux, on sait comment ça commence, on ne sait pas trop quand ça finit. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse s'offrir le luxe d'attendre 5 ou 6 ans que ce quartier sorte pour installer et aller taper à la porte de nouveaux praticiens. Autre chose, quartier de l'hôpital, il va y avoir des habitants. Ces habitants, ils vont avoir besoin de médecins. Donc évidemment, ces médecins vont trouver des patients à soigner et à suivre à proximité. Donc, ça ne concerne pas tant Fourqueux, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une offre médicale, mais à Saint-Germain, oui, il va falloir qu'on mette, notamment au centre-ville, le paquet pour trouver des locaux. Il y a des locaux libres, on les trouvera. Mais ça coûte cher. Ça coûte 1,5 million d'euros. Mais c'est le prix pour que notre territoire continue à être attractif. Parce qu'aujourd'hui, on a des écoles de qualité, on a un cadre de vie de qualité. Et ensuite, la troisième chose, c'est que les gens qui veulent avoir des médecins, être soignés, et pas faire des kilomètres pour courir à droite, à gauche. Voilà. Comme ça. Je pense que c'est véritablement c'est très important. Et en plus, c'est une mesure phare, mais ça veut aussi témoigner de l'engagement que l'on veut promettre et mettre en œuvre pour les habitants dans leur accompagnement tout au long de leur vie, que ce soit auprès des parents dont les enfants ou un enfant est en situation de handicap, et malheureusement ils sont peu aidés, ou des personnes qui sont en perte de dépendance et qui veulent rester à domicile. Et aujourd'hui, la ville joue un rôle essentiel pour mobiliser les moyens qui sont mis en œuvre. Parce qu'on ne peut plus raisonner à la seule échelle de la commune. C'est plus possible. Partout, on rationalise. Partout, on essaye d'améliorer le rapport entre les moyens et la satisfaction. Donc aujourd'hui, sur la santé, c'est un véritable enjeu. On ne va pas parler ici de la situation dans les hôpitaux, de la situation des agents hospitaliers, mais on voit bien qu'on a notre part à faire. C'est un nouveau métier pour les villes. C'est un nouveau métier, clairement. Et donc, bah, il va falloir l'avancer, il va falloir du temps. On a de la chance, on peut s'inspirer d'expériences qui sont mises en œuvre par des villes qui ont été innovantes et avant-gardistes sur ces questions. Mais il faut y aller. Il faut y aller, parce que sinon, bah, on va devoir attendre. C'est pas normal que dans une ville comme Saint-Germain-Fourqueux, on attende, on soit obligé de chercher pour avoir un nouveau praticien. Et c'est pas normal que des praticiens qui travaillent depuis des dizaines d'années, on leur offre pas la possibilité de pouvoir continuer leur activité, on va dire plus à temps partiel. C'est pas normal qu'on ne soit pas attractif pour un certain nombre de libéraux médicaux de pouvoir s'installer à Saint-Germain. Parce que, faut dire ce qu'il y a, les jeunes qui sortent de l'école de médecine, ils n'ont plus envie de pratiquer comme pratiquaient leurs prédécesseurs. C'est un fait, il faut l'accepter, on ne va pas les contraindre, on a déjà du mal à les envoyer dans les campagnes. Alors si en plus vous leur dites, eh ben, tu vas devoir bosser 70 heures comme ton prédécesseur, oui, d'autres l'ont fait. Mais il faut aussi pouvoir être attractif sur ce modèle. On a encore la chance d'avoir des praticiens et d'avoir cette attractivité. Je crois qu'il faut vraiment saisir la balle de l'opportunité de ces prochaines années pour conforter cette situation et ne pas se retrouver face à un désert médical. Parce que j'en suis convaincu, véritablement en matière de finance et de gestion, il faut faire preuve de discernement. On m'a toujours appris qu'il y a des économies qui coûtent cher. Il y a des coûts qui rapportent. Et là, en l'occurrence, je suis certain, oui, ça coûte de l'argent, mais que ça permettra de répondre véritablement à un besoin de la population.
Bon, quand même.
Encore plus qu'il y ait